Donc, on va parler de gémothérapie, encore appelée plus ou moins, c'est pas exactement la même chose, mais phytembryothérapie. Donc, phytembryo, vous voyez à peu près embryon de plante. Gémothérapie, c'est pour bourgeons, ça va être une thérapie par les bourgeons. Et pour la préciser un petit peu dans sa description, il va falloir présenter le type de produit qui va être employé et notamment les distinguer les uns des autres, puisqu'il va y avoir pas mal de problèmes de conception et d'opposition de fonctionnement qui s'expliquent un petit peu historiquement sur ce domaine. Et ce qui explique justement qu'on utilise aussi deux termes, le cas échéant, entre gémothérapie et phytembryothérapie. L'idée de départ, ça va être d'utiliser des bourgeons, mais pas forcément sous forme initiale. Ce qu'on va en général utiliser, ça va être des macérats de bourgeons avec des modes de préparation qui peuvent un petit peu varier selon les fabricants. Donc l'idée de départ, c'est toujours un petit peu la même. Il va y avoir un rapport entre la quantité de bourgeons, la quantité d'extrait produite qui sera toujours à peu près le même, qui sera de l'ordre de 1 pour 20. Alors ça, on en parlera un petit peu à d'autres sujets. Vous verrez ça en phytothérapie aussi, ce qu'on appelle le fameux rapport DER, c'est Drug to Extract Ratio, autrement dit le rapport entre la drogue végétale, la quantité de matière initiale et l'extrait produit. Et il va y avoir des différences, par contre, qui vont surtout, je n'exagère pas sur les détails qui pourront être considérés, mais sur le fait qu'on puisse avoir des bourgeons qui seront soumis à différents traitements plus ou moins respectueux de la matière première végétale. Ici, en gros, on va un peu mieux rentabiliser la quantité de matière initialement fournie. On va directement exposer le produit à un extrait et ensuite le refiltrer par derrière. Et dans un autre cas, on va commencer par utiliser un produit sans eau. Alors, il y a différents commentaires qui pourront venir en plus. Ici, ce n'est pas exactement décrit dans le procédé de départ, mais une grande différence avec, même si je parle ici de bourgeon frais, il a été postulé par des médecins notamment qui n'étaient pas en faveur du procédé, que les bourgeons utilisés pouvaient être des bourgeons secs. Donc ça vous explique qu'il y a des exigences plus ou moins importantes des prescripteurs et parfois une défiance vis-à-vis des grands procédés de fabrication. Pour vous expliciter un petit peu mieux les choses, le procédé qui est ici relatif à l'homéopathie, ça va être par exemple le procédé Boiron et qui est décrié par un certain nombre de prescripteurs dans le domaine. Une différence qui n'a pas grand-chose à voir. Par contre, c'est que dans ce procédé dit homéopathique, on va avoir un mode de présentation qui va supposer une dilution, au lisière en l'occurrence, qu'on va appeler une décimale hahnemannienne, si vous connaissez un petit peu l'homéopathie. Cela dit, qui n'a aucune importance sur l'efficacité du produit. Ça peut être un peu difficile à comprendre, mais le problème de la gémothérapie, c'est qu'au final, au départ, quand on a voulu la commercialiser, pour que ce soit remboursable, etc., en pharmacie, on a passé ça sous le statut de l'homéopathie. Ça n'est absolument pas de l'homéopathie. On a des quantités de matière qui sont mesurables, qui sont relativement faibles, mais qui sont perceptibles. Et en fait, le principe de la dilution a été opéré simplement pour rapprocher ça du principe de fonctionnement de l'homéopathie en général. Mais le principe qu'on va habituellement avoir de dilution, de dynamisation en homéopathie, il est pratiqué ici juste pour se donner une occasion de vendre le produit. Et sur une période plus récente, on a proposé d'utiliser directement des concentrés de bourgeons et en général, en complément alimentaire, ce sera plutôt ce type de produit qu'on retrouvera. Donc ce qu'on va appeler un macérat glycérine concentré sera simplement 10 fois plus concentré que les préparations de bourgeons qu'on retrouvera dans des gammes d'homéopathie. On verra que ça a un certain intérêt quand même, parce qu'ici, on se retrouvera à donner vraiment de nombreuses gouttes. Ça peut aller sur des centaines de gouttes, alors qu'ici, on sera au maximum sur des dizaines. Donc, il y a des différences au niveau du traitement et du respect supposé de la matière végétale de départ, ce qui peut avoir de l'importance pour certaines personnes, et il va y avoir des différences sur la quantité de matière mise en œuvre au départ. Donc, si vous êtes un puriste, vous aurez peut-être envie de vous distinguer de ce qu'on va appeler bêtement la gémothérapie, et vous appellerez ça de la phytembryothérapie. Ici, je faisais un petit écart pour poser la question simplement, effectivement, de ce qui pouvait nous amener à sélectionner des méthodes de traitement naturel, peut-être un peu pour introduire des raisonnements qu'on va retrouver en gémothérapie, qui sont un peu moins présents à la phytothérapie, qui est mieux intégrée dans des méthodes de traitement conventionnelles. Et notamment l'effet qu'effectivement, quand on va se tourner vers ce genre de discipline, ce sera souvent par des convictions particulières, parce qu'on va aimer se rattacher à une tradition particulière plutôt qu'à la médecine moderne, parce qu'on a été éventuellement convaincu par l'efficacité en essayant un petit peu au hasard ou sur le conseil de quelqu'un, ou parce qu'on aime bien fabriquer soi-même ses produits, parce qu'on aime la nature, parce qu'on n'aime pas la chimie ou la médecine moderne en général. On le voit aussi avec toutes les discussions qu'on a actuellement sur les vaccins, justement dans le cadre du Covid-19. Et puis, on peut parfois aussi se laisser entraîner, ça ce sera peut-être une petite mise en garde, par la volonté de classer, parce qu'une fois, c'est valable en homéopathie, comme d'ailleurs dans toute discipline, hein, le fait d'être bon, d'être doué pour l'enregistrement des informations, le classement des informations et leur restitution, va nous entraîner à valider un petit peu intérieurement le mode de fonctionnement. Alors là, ici, ça peut être formulé d'une manière pas très a priori gentille, mais l'intention n'est pas vraiment très négative. Mais parfois, on aime bien aussi se donner un petit peu de stimulation par un goût du mystère et une forme de magie qui pourrait contribuer à l'efficacité des produits. La validité scientifique ne sera pas forcément toujours le moteur principal pour l'attrait pour les produits naturels en santé. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'y intéresser du tout, mais ce sera rarement, à mon avis, y compris pour moi, le moteur principal, la première intention de se retourner vers cette méthode de soins. Alors, si je parle de tout ça, c'est pour expliquer que dans cette discipline particulière, qu'il n'y a pas de gros fondement scientifique, on va trouver éventuellement un certain nombre de moteurs qui vont a priori nous motiver à nous intéresser à la gémothérapie, qui sont plus ou moins crédibles selon les situations. La gémothérapie, on va généralement lui accorder une importance traditionnelle. On se réfère assez facilement à Saint-Hildegarde de Bingen, si ça vous dit quelque chose, hein, qui est une grande référence classique dans le domaine, parce que justement, elle a été très prescriptrice. Ça fait partie des grands textes qu'on va retrouver sur l'utilisation de plantes médicinales en général. Il y a effectivement un certain nombre de bourgeons qui sont présents dans les recommandations de cet auteur, assez précocement, encore une fois, Pommier, bouleau cassis, châtaignier, frêne et tilleul. On va avoir un certain nombre d'autres utilisations traditionnelles pour des bourgeons, c'est vrai pour le pin, le peuplier, le sapin, mais ça ne va pas beaucoup, beaucoup plus loin. Ici, si j'ai mis trois petits points, c'est pour montrer quand même, par contre, qu'il y a un fossé assez important avec un regain d'intérêt spécifique pour les bourgeons. Et qu'au final, si on veut vraiment dater un début de la gémothérapie telle qu'on la connaît actuellement, ce sera plutôt du début du XXe siècle, avec une première moitié, on va dire, du XXe siècle, mais pas encore trop précoce, avec un monsieur qui est belge, qui s'appelle Paul Henry, et qui a effectivement mis en avant l'intérêt de recourir à cette discipline, en particulier au départ, avec un écrit central qui arrive même encore un peu plus tard, en 1959. Donc il y aurait a priori une soixantaine de bourgeons qui seraient recensés pour un intérêt thérapeutique. C'est vraiment un maximum, hein. Généralement, on se contentera de beaucoup moins pour une pratique courante de la gémothérapie. En tout cas, ça nous laisse quand même supposer que même si une tradition dans l'absolu de l'utilisation du bourgeon thérapeutique est envisageable, le plus gros de ce qu'on sait actuellement en gémothérapie est beaucoup, beaucoup plus récent que ça. Alors, ça nous pose la question de l'identité scientifique de la discipline, qui n'est pas absolument évidente. Puisqu'on parlait de Paul Henry, il y a quand même une base scientifique à son travail, puisque c'est un monsieur qui a essayé de montrer que la consommation de bourgeons pouvait avoir un effet sur la composition des protéines du sang. Donc, j'ai pu consulter un petit peu ce qu'il avait écrit. C'est pas inintéressant, mais c'est difficilement vérifiable dans l'absolu, dans la mesure où ça n'a pas été publié d'une manière très scientifique. On peine à imaginer qu'il ait pu inventer l'ensemble des résultats qu'il restitue, mais malheureusement, ils ont été tellement peu reproduits par d'autres que c'est difficile de savoir. Personne n'a vraiment pris la peine de vérifier si ça avait, s'ils étaient exacts et reproductibles, tout simplement. Du coup, c'est un petit peu complexe. Et dans les auteurs modernes de gémothérapie, il y en a bien peu qui se reposent réellement. Alors, ils citent Paul Henry, mais il y en a bien peu qui sont en mesure de s'appuyer sur des résultats biologiques de patients pour valoriser les résultats qu'ils tentent de mettre en œuvre. Autrement dit, c'est un petit peu compliqué de donner une valeur scientifique à la gémothérapie, et c'est aussi un petit peu pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas vraiment de mise à jour d'une politique de gémothérapie, tout simplement parce qu'il n'y a quasiment aucune publication scientifique sur le sujet, que ce soit récente ou même un petit peu plus ancienne. C'est extrêmement rare en réalité.
Ils arrivent quand même à avoir des allégations en gémothérapie, parce que souvent c'est noté digestion, stress, des choses comme ça, mais est-ce que c'est vraiment une allégation du coup?
Alors, honnêtement, je ne sais pas, j'avoue que je ne me suis pas penché spécifiquement sur ce qui leur permettait d'indiquer. Je ne suis pas sûr que ce soit. Vous avez une marque en tête pour l'indication d'allégation?
Je crois que ça doit être Herbiolis que j'ai à la maison.
Alors, celle-là, je la connais peut-être moins. Je sais qu'en tout cas, moi, j'avais Vitaflore en tête qui, dans mes souvenirs, ne mettait pas d'allégations sur ses produits, mais qui les mettait sur un site internet spécifique, donc qui renvoyait en fait ce qui est aussi une technique parfois praticable pour les fabricants, c'est-à-dire vous distinguez, vous séparez complètement, c'est ce que font aussi ma connaissance par exemple en changeant de domaine. Aromazone, vous avez un portail différent pour la description du produit. Et pour des référentiels d'efficacité, on va vous renvoyer vers une page spécifique avec les recettes utilisables et des indications particulières. Ça permet de ne pas être attaquable sur l'utilisation d'allégations particulières. Après, sur le fait d'écrire sur l'emballage une allégation, si une marque le fait, c'est soit qu'elle prend ses risques, soit qu'elle a intégré des ingrédients permettant de soutenir l'allégation, encore une fois, type minéraux, vitamines, soit peut-être que ces produits rentrent dans la catégorie des allégations de plantes qui sont un peu dans un vide juridique qui dure. Je ne suis pas absolument sûr. Il faudrait étudier le sujet sur une marque particulière. Pour la plupart des marques que je connais, il n'y a tout simplement pas d'allégation et on invite les gens à se renseigner sur la gémothérapie, ou alors ils sont amenés par un prescripteur, ou alors, encore une fois, on fournit une brochure en marge de l'utilisation du produit.
Là, j'ai deux marques différentes sous les yeux. Donc, Herbiolis, eux, ils mettent stress. Par exemple, je suis sur du bourgeon de figuier, ils mettent stress et digestion. Et sur le côté, ils mettent régulateur du système nerveux. Enfin, ça va loin quand même. Hein. Il peut être utilisé pour la boulimie émotionnelle, etc.
À mon avis, c'est plus de la pratique sauvage ou du vide juridique. qu'autre chose, mais en tout cas, non, il y a, ces allégations ne sont pas les vraies allégations clairement validées, à mon avis.
J'ai
Même leur
comme
formulation, la supposée, hein,
oui.
vous auriez jamais ce genre de choses.
Est-ce qu'on peut se dire que si la plante elle-même a une allégation, le bourgeon de plante, ils peuvent extrapoler l'allégation? Non, quand même pas.
C'est une grande question. Est-ce que c'est possible? Normalement, non.
Non, une allégation, c'est sur une partie de plante, logiquement.
Théoriquement, les fameuses allégations plantes médicinales, elles sont censées quand même être rattachées à des parties bien décrites. Hein. C'est une des exigences au départ de l'EFSA quand elle donne des avis, c'est-à-dire qu'il faut que le produit soit bien caractérisé. Et normalement, ça suppose qu'on ait bien décrit la partie concernée. Autrement dit, on ne devrait pas pouvoir extrapoler au bourgeon s'il n'a pas été inclus dans les parties concernées par l'allégation demandée au départ. Donc j'avoue que je n'ai pas la liste complète, je ne sais pas s'il y a eu des demandes d'allégation sur ces bourgeons. Ça pourrait être le cas, hein, dans l'absolu, vu que tout a été pris en vrac en disant on refuse tout en bloc et qu'on est encore en discussion sur l'ensemble, ce ne serait pas absolument impossible qu'il y ait des allégations flottantes sur ces bourgeons. Mais j'avoue que je n'ai pas étudié le sujet en particulier. J'avais pas eu encore le cas à ce jour. J'avoue que j'avais pas vu sur ces marques. Vous disiez que vous aviez deux marques, la deuxième, c'était quoi?
Med aussi, là j'ai un mélange sous les yeux qui s'appelle Gémophytol, nez et gorge. Donc on est sur du macérat de bourgeon et jeunes pousses. Alors est-ce que les jeunes pousses, elles permettent d'avoir une allégation? Je ne sais pas. On est sur du.
Alors, on y reviendra, mais les jeunes pousses sont effectivement une partie de la gémothérapie et ouais, remarquez peut-être. C'est vrai que c'est une partie tellement particulière, elle n'existe pas en phytothérapie et elle pourrait correspondre par contre à d'autres produits décrits. Mais
Copmed
normalement,
qui sont
c'est
dessus, ouais,
quoi
voilà,
déjà?
ils sont du transparent. Enfin, transparent, ils vont. Mais c'est vrai qu'Herbalgem, je crois qu'eux, ils ne mettent pas du tout sur leur flacon. Hein. Ils mettent juste le aubépine, mais ils ne mettent pas à quoi ça sert, quoi.
Ouais. Cela dit, je me demande, mais c'est pas Herbalgen, c'est encore un peu particulier parce qu'ils doivent être belges, je crois, au départ. Et c'est peut-être pas exactement les mêmes exigences. Je pense qu'ils ont des unitaires sans allégation, mais ils ont peut-être quand même des produits à plusieurs
Ah
composants
ouais,
avec.
nos petits gemmes spray sommeil, ouais, effectivement. Donc, ouais, c'est ça. Ils ont des mélanges après orientés, effectivement.
Voilà, je devrais. Enfin, si ça vous intéresse, je pourrais toujours essayer de regarder, mais. Je vous avouerai que je ne regarde pas toujours
Non, bah
spécifiquement,
après, ça
partant du principe que de toute façon, il y a 50 façons de donner une allégation à un produit sans qu'il le mérite, entre guillemets, réellement. Je ne vais pas toujours chercher dans le détail pourquoi un produit indique quand même quelque chose, même s'il n'a pas le droit, ou même s'il n'a peut-être pas le droit, ou même si on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'il.
Bon, après, c'est une prise de risque, hein, ou pas.
Oui. Voilà, en l'occurrence, le risque n'est pas énorme, hein, on y reviendra peut-être, mais. Ça fait partie des médecines dont je parle notamment aussi parce qu'elle a cet intérêt-là, de pouvoir être pratiquée avec une relative sécurité. Donc, simplement, justement, que ce soit en termes de toxicité ou d'efficacité, on a effectivement une comparaison qui mérite d'être faite. Ici, j'ai essayé de la prendre, par exemple, pour le romarin. Hein, vous voyez que sur le fameux rapport 1,20 que je vous décrivais dans une diapo précédente, à 15 gouttes par jour, on est sur environ 37,5 mg de plantes sèches par jour, et qu'en phytothérapie, on serait sur des doses qui pourraient correspondre, ici j'ai regardé pour le romarin, à des doses de l'ordre d'un gramme à 6 grammes par jour. Donc on n'est pas sur les mêmes quantités. Pour autant, on a souvent, pour certains de mes collègues notamment, le mépris de considérer qu'il n'y a pas de matière ingérée. Si, il y a quand même une petite quantité de matière. On n'est pas sur rien du tout. Ça n'est pas de l'homéopathie. Pour autant, on est quand même sur des doses beaucoup plus faibles que la phytothérapie. Donc, a priori aussi, si on valide le principe de l'utilisation de cette gémothérapie, un risque qui est bien moindre que pour la phytothérapie.
Mais après, ce n'est pas la même partie de plante qui est utilisée. Dans le bourgeon, ils partent du principe que c'est beaucoup plus concentré. Donc, s'il y a moins en quantité, mais que c'est plus concentré en actif.
Oui,
Non?
alors
Ah, c'est la
oui.
notion que j'en avais
À mon avis,
après.
ça rattrape pas. Cela dit, si
Oui.
il y a encore une fois relativement peu d'études, donc il y a toujours une place au doute. C'est aussi là-dessus que je me positionne personnellement, hein, en considérant que justement on a trop peu d'informations pour pouvoir vraiment écarter l'intérêt de la discipline. Cela dit, je ne pense pas qu'on puisse quand même, même très riche, rejoindre les doses de la phytothérapie. On est quand même sur la supposition d'un mécanisme un peu différent entre les deux, a priori, selon moi.
Que du coup, il l'utilise plus facilement chez les enfants, la gymothérapie. Après, tout dépend si c'est dans l'alcool ou pas, mais je crois qu'on peut l'utiliser plus facilement chez les enfants, il me semble.
Bah oui, a priori, ça peut à peu près fonctionner. Alors, il y a quand même parfois des mises en garde, mais ça peut s'envisager en tout cas plus sereinement et effectivement chez des publics un petit peu fragiles. Oui, alors là, je citais une référence possible, notamment le traité de phytothérapie de Jean-Michel Morel, qui est quand même une des personnes qui parle assez facilement dans le domaine de la gémothérapie aujourd'hui, qui en cite souvent des emplois. Et on voit qu'en tout cas, il y a des intercroisements au niveau de la philosophie d'utilisation. Par exemple, justement, Jean-Michel Morel sera souvent sur une conception de la gémothérapie assez proche de celle de la phytothérapie. C'est-à-dire qu'on a le même genre d'indication entre le bourgeon et la plante, alors que chez certains auteurs, on aura une différence beaucoup plus importante par rapport à la phytothérapie. Donc ici, en l'occurrence, on est sur quelque chose, une approche de type rationnel, à cette différence près que, quand même, au niveau dose, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Mais ça peut être considéré comme une approche un petit peu douce du sujet. Alors ici, là, quand je parlais de do it yourself ou de méthode maison tout à l'heure, c'est parce qu'effectivement, je ne peux pas m'empêcher, il y a un petit peu de mauvaise foi, hein, de ma part, hein, mais de sourire à la notion qu'on est effectivement en gémothérapie, le recours à ces petits flacons compte-gouttes, un peu similaires à ceux des huiles essentielles qui ont un petit côté sympa, je vais me mettre ma petite dose moi-même. Je pense que ça doit quand même contribuer à l'attrait, en tout cas pour le domaine, même si on est bien d'accord, ça n'a rien à voir avec les huiles essentielles au départ, et encore une fois, ni en type d'effet pratiqué, ni en risque et en concentration effective des matières à l'intérieur du produit. Alors, quand on parlait un petit peu d'une sorte d'approche naturaliste, on va constater qu'effectivement, il y a des catégories de personnes qui vont s'intéresser, notamment dans les auteurs en gémothérapie, on va assez facilement trouver des gens qui viennent un petit peu par la botanique. Par exemple, Philippe Andréane, par exemple, qui est un auteur qu'on va retrouver sur le sujet au départ, est plutôt botaniste que médecin. Et on va retrouver assez souvent des prises en compte, de considérations, d'observations naturelles, qui vont se greffer un petit peu sur les principes de base qui avaient été posés par Paul Henry. Donc ça complexifie un petit peu la lecture du sujet et ça explique un petit peu la nébuleuse qu'on va avoir dans la nature des commentaires qui peuvent être faits par différents auteurs. Ils vont là, le petit portrait qui est montré ici, c'est celui de Paracelse qu'on va souvent retrouver à l'origine d'un certain nombre de commentaires et notamment à qui on attribue souvent, c'est un peu faux, mais l'origine de la fameuse théorie des signatures qui nous permet d'identifier dans la nature les substances qui nous seront utiles, avec cette fameuse citation, c'est une même chose que celle qui est dehors et celle qui est dedans. Autrement dit, on va avoir un indice dans la morphologie, par exemple, d'une plante, dans son milieu de vie, sur les bénéfices qu'elle pourra nous apporter. Et ici, vous avez un exemple, par exemple, avec la possibilité d'utiliser le platane, qui est un arbre qui va avoir ça, son écorce qui se décolle par plaques avec un visuel particulier et son application dans des problèmes de peau qui ont un petit peu le même aspect de type vitiligo. Ça peut apparaître un petit peu étrange et c'est bien pour ça que j'en parle. C'est pas du tout évident qu'il y ait un rapport entre les deux, mais ça fait partie des rationnels qui seront parfois utilisés en gémothérapie. De la même manière, raisonnement un peu potentiellement absurde, en tout cas surprenant, et qui est effectivement pratiqué par des auteurs, y compris médecins dans le domaine de la gémothérapie, comparaisons entre règne végétal et règne animal qui peuvent paraître un petit peu déroutantes. Je pense que je remonterai la couverture du livre un petit peu plus loin. On a un auteur dans le domaine qui est Max Tetto, qui a été assez important en tant que contributeur dans la mise à connaissance du public et dans la diffusion de la pensée autour de la gémothérapie, qui n'hésite pas à faire un parallèle entre hormones humaines et hormones végétales. Alors, vous n'êtes peut-être jamais posé la question, mais sachez que les hormones existent bien chez les végétaux, mais elles n'ont rien à voir avec celles qu'on a chez l'être humain, et qu'a priori, aucun indice qu'il y ait une perméabilité entre les deux systèmes. Donc on aurait cette notion que le bourgeon, c'est bien le problème de départ hein, par rapport à votre réflexion de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a trop peu de métabolites secondaires pour justifier d'une activité par rapport à la phytothérapie, et du coup on s'est dit que peut-être c'était les hormones, et elles sont présentes en quantité bien plus importante que habituellement dans les végétaux consommés, qui pourrait jouer un rôle et expliquer les bénéfices particuliers de ces bourgeons. Donc justement, bah, le voilà, Max Tetto, par exemple, avec alors il est décédé, je crois, le bouquin a été, en tout cas une partie de son raisonnement a été repris par un autre médecin qui, lui, je crois, est toujours en activité, qui s'appelle Daniel Simeka. Et tout ce bouquin-là, par exemple, est assez important aussi dans le domaine de la gémothérapie, et ça fait partie de ce auquel je me réfère pour ce que je retiendrai dans le polycopier, par exemple. Donc, il y a toujours des choses qui se mélangent. Il y a une approche clinique qui est pratiquée dans le livre qui n'est pas inintéressante. Il y a parfois, par contre, des réflexions qui sont curieuses d'un point de vue rationnel. Et en tout cas, on ne peut que te prendre en compte le fait que ce soit quand même un livre important dans la connaissance de la gémothérapie en général. On peut difficilement passer à côté. Pour aller vraiment jusqu'au bout du raisonnement, celui-là, pour le coup, je m'y réfère assez peu parce que ça me paraît un petit peu complexe et qu'on va vraiment vers des choses qui sortent un petit peu du domaine de la médecine à proprement parler. C'est des médecins du coin, hein, on a le docteur Ledoux, le docteur Chacornac qui a aussi donné ses conseils, qui est déjà intervenu dans le début. On va retrouver des choses similaires à ce qu'on a dans les autres livres de la littérature, avec une dimension supplémentaire, symbolique, et notamment d'association entre le corps physique et d'autres aspects du corps, notamment les aspects psychologiques et mentaux, qui va se rapprocher un petit peu, pour certains, si vous connaissez, des conceptions du docteur Maibio qui avait écrit un livre sur la caractérologie des huiles essentielles où il attribuait les huiles essentielles à des traits de caractère particuliers chez l'individu. C'est un point de vue qui est relativement utilisable, qui me dérange quand même un petit peu. On parlera un petit peu des fleurs de Bach plus loin, qui ont au moins cet intérêt justement de se rapprocher davantage de l'homéopathie quant aux quantités mises en œuvre. Ça me dérange un petit peu plus quand on est sur des matières quantifiables et potentiellement toxiques quand même chez l'individu. C'est encore modéré dans le cas des bourgeons, c'est déjà beaucoup plus embêtant avec les huiles essentielles. En tout cas, j'aurais tendance à bien distinguer ce qui est thérapeutique de ce qui se veut à vocation psychologique ou détaché des soucis organiques. Pour rentrer un petit peu dans la présentation générale du sujet, on va quand même garder en tête, c'est un peu caricatural, mais ça reste quand même assez vrai, à mon avis, qu'il y a un bourgeon qui est particulièrement important en gémothérapie, qui est le bourgeon de cassis. Alors ici, je vous en ai montré justement, parce qu'effectivement, c'est un produit possible de phytothérapie, pas forcément de phytothérapie très moderne, mais ça existe aussi à la base utilisé en tant que tel. C'est bien pour ça que j'en avais sous la main. Le cassis en phytothérapie, c'est surtout la feuille qui est utilisée à l'heure actuelle et c'est un produit qui va être utilisé en tant que diurétique. Donc, ça va être proposé dans les troubles urinaires, c'est le lithiase notamment. Et puis, ça va être un produit considéré comme anti-inflammatoire et en particulier recommandé dans les troubles articulaires. Alors, il y a souvent en phytothérapie une similitude tubes de pensée comme ça entre le problème urinaire et le problème articulaire, notamment sans doute en considérant qu'on va aussi avoir une élimination de toxines qui sera favorable dans le cas de troubles articulaires. C'est comme ça que je me l'explique. Si je vous montre ça, c'est aussi justement pour essayer d'illustrer les différences qu'on va avoir entre la phytothérapie et la gémothérapie. Sur cette diapo, vous avez en noir ce qui relève de la phytothérapie, c'est-à-dire ce qu'on s'autorise à dire en phytothérapie, élimination urinaire, effet anti-inflammatoire, indication possible dans l'arthrose, dans l'élimination. Alors j'ai mis toxine et toxique en poussant un petit peu. En général, ce sera plutôt simplement, comme on le disait, les calculs, les bactéries éventuellement dans le contexte d'une infection urinaire. Et puis en gris, vous avez ce qui pourrait être interprété comme des extrapolations ou comme une autorisation plus grande à être un petit peu plus large dans ces affirmations par rapport à ce qui est retenu, ce qui a été sans doute aussi un petit peu trié par les autorités de santé sur les bénéfices d'une plante en particulier. Donc ce cassis, par différents raisonnements et par glissements successifs, on peut se retrouver à lui accorder un certain nombre de propriétés. Et en particulier, on va glisser un petit peu de l'effet d'élimination de toxiques vers un effet globalement bénéfique pour le corps, stimulant et sans doute anti-asthénique, voire stimulant immunitaire. Et puis de l'appareil urinaire vers les glandes surrénales. Après tout, c'est juste un petit peu plus haut. Et de la même mesure, ça pourra s'associer à l'effet de l'effet anti-inflammatoire. On ira vers cet effet sur les glandes surrénales et vers des indications beaucoup plus enthousiastes que celles de la seule arthrose, en glissant vers, par exemple, des maladies inflammatoires plus carabinées, hein. Et des douleurs beaucoup plus précises, en tout cas dans leur description. Qu'on retiendra en général, c'est que le cassis, ça va être un bourgeon central qui va revendiquer des propriétés relatives à l'inflammation et à l'immunité très larges, qui sont plus régulatrices que réellement stimulantes ou inhibitrices. Ça va vraiment pouvoir agir dans les deux sens, et d'une manière générale, en plus de cette propriété qui laisse déjà pas mal de possibilités, on va considérer qu'il potentialise l'action d'autres bourgeons. Autrement dit, on va vraiment très très facilement le retrouver en association dans beaucoup de situations. Donc, si je vous ai mis quand même cette situation de Ledoux qui vous situe vraiment sa place, hein, il complémente et potentialise énormément d'arguments thérapeutiques, donc voilà, vous pouvez en glisser quasiment partout. Par rapport à ce cassis, pour essayer d'introduire quelques grands bourgeons de la gémothérapie, on peut simplement par comparaison en présenter quelques autres. On va commencer par l'églantier qui est assez proche dans ses indications possibles. Ici, je vous ai laissé la diapositive du cassis et je vous ai simplement remis des petits dessins qui correspondaient à des endroits où on pouvait aussi préconiser l'églantier. Donc, vous voyez que ça couvre quand même un certain nombre de gammes d'utilisation. Ça va aller vers la défense immunitaire, vers le traitement de l'hypotension. Alors, il y a toujours ce glissement de sens possible, hein, de la fatigue à l'anémie ou à l'hypotension. Il n'y a qu'un pas qu'on peut sauter allègrement. Et puis, on va le retrouver là aussi dans des indications relativement similaires de type migraine ou trouble articulaire. Donc, là, relativement peu de différence, si ce n'est que on est quand même un petit peu moins réputé que le cassis. On va éventuellement s'orienter vers des choses un peu proches, en tout cas d'un point de vue immunitaire, mais plus spécifique, avec l'argousier qui est plus clairement à considérer spécifiquement comme un adaptogène de la gémothérapie. Donc, si vous, encore une fois, vous voulez faire le raisonnement, le glissement comment dire, d'autorisation d'indication, hein, l'argousier en phytothérapie simple, vous verriez ça comme une plante riche en vitamine C. Je dirais que c'est bon pour l'état général. En gémothérapie, on va aller un petit peu plus loin et on va être plus affirmatif sur le nombre de choses desquelles ça peut vous proposer dans le sens d'un tonus général et d'une défense contre le monde extérieur. Le dernier, dans une catégorie un petit peu proche, ce sera le boulot. Et là, ça devient franchement compliqué. Je vous invite vraiment à regarder le poly où vous aurez des informations un petit peu plus précises. Ça va là aussi repasser à peu près sur le même type d'indication la plupart du temps, avec une subtilité près qui est que selon les auteurs, vous allez éventuellement avoir une distinction entre plusieurs boulots, voire plusieurs parties de boulot. Donc vous voyez que dans le sens d'une détoxification qu'on pouvait attribuer au cassis, on aura plutôt le boulot verruqueux. Dans le sens d'une stimulation générale, on aura plutôt le boulot pubescent. Là aussi, avec des différences à chaque fois. Ici, on a le pubescent. Et vous voyez que pour le système ostéo-articulaire, on peut avoir l'un ou l'autre selon ce qu'on vise en particulier. D'une manière générale, on considérera que les boulots sont réparateurs et stimulants. Donc voilà, là, j'ai fait juste un petit bilan sur un certain nombre de préparations différentes. Donc encore une fois, ça dépend beaucoup des auteurs. Et vous verrez que dans le poly, je vous inviterai, selon la marque que vous pratiquez, par exemple, qui est plus ou moins proche des convictions d'un auteur en particulier, je vous inviterai à suivre un raisonnement ou pas. Certaines marques, par exemple Herbal Gem, si je me rappelle bien, n'a qu'un boulot et du coup va lui attribuer l'ensemble des propriétés des boulots. Et puis, dans certaines autres marques, on va avoir une distinction entre les deux. Et du coup, il faudra éventuellement choisir un plutôt que l'autre en fonction de la situation précise qui est donnée et qui sera décrite dans le poste. Donc, vous voyez qu'en gémothérapie, on a généralement des bourgeons. Mais en pratique, au final, on a tout un petit univers qui se déroule et on a été amené à proposer l'intérêt particulier de différentes parties de la plante qui peuvent être les radicelles, qui peuvent être les chatons, de la plante et voir l'écorce interne qui serait plutôt a priori au départ du domaine de la phyto. Pour aller un petit peu rapidement, je ne sais même plus où il me reste quasiment plus de temps, je vous ai simplement fait une petite liste que vous pourrez parcourir qui vous montre simplement qu'il y a un certain nombre de bourgeons qui sont faciles à transposer. Parce que très proche de l'idée qu'on s'en fait en phytothérapie, avec parfois, encore une fois, un petit peu d'enthousiasme et d'extrapolation possible par rapport à l'idée de départ. Donc ici, vous avez le romarin tel qu'on pourrait l'envisager en phytothérapie, digestif, respiratoire, peut-être un peu tonique, cérébral. Et vous avez un certain nombre d'indications en gémothérapie qui vont s'inspirer un petit peu de tout ça, voire emprunter un petit peu à plusieurs composantes, pour expliquer un certain nombre de propositions qui pourront être faites, ou en tout cas qui m'amèneront à en comprendre quelque chose de différent. Donc pour prendre un des cas les plus simples, là où le romarin de phytothérapie va pudiquement être considéré principalement comme un traitement des affections hépatobiliaires, dans le fonctionnement général du foie de manière assez conventionnelle et conforme à la médecine la plus classique, en gémothérapie, on s'autorisera davantage à envisager des bénéfices particuliers sur des troubles métaboliques comme la cholestérolémie, l'athérosclérose, ou comme des effets hépatoprotecteurs réels. À peu près la même chose pour le noyer, qui est une plante qui est connue pour, y compris en phytothérapie, pour sa teneur en tanin, et donc notamment sur ses effets favorables sur la diarrhée. On va aller un petit peu plus loin. On prétend toutes les propriétés qu'on peut attribuer à différentes plantes contenant des tanins et au niveau de la diarrhée, en extrapolant à beaucoup de pathologies, y compris digestives ou parfois en allant même un petit peu plus loin. Vous voyez qu'on va avoir un glissement diarrhée vers intolérance alimentaire, encore dans le système digestif, et puis on va même carrément glisser après vers les allergies en général. C'est en tout cas la manière dont je comprends le problème et cette utilisation possible spécifique d'une manière en gémothérapie. En tout cas, il n'est pas faux de considérer que les indications de la phytothérapie soient applicables pour vraiment la compréhension directe du sujet. Donc, vous avez compris le principe. Ici, je vais un petit peu plus rapidement pour un certain nombre d'autres bourgeons assez classiques. Le tilleul, ce sera globalement une plante liés à la nervosité, comme on peut la rencontrer en phytothérapie, l'olivier aux troubles métaboliques, le frêne à l'élimination et aux troubles articulaires, à peu près la même chose pour le genévrier. L'aubépine, ce sera là aussi globalement une plante de la fonction cardiovasculaire et le marronnier d'Inde de la circulation. Donc bien sûr, on sera un petit peu plus précis et touffu dans le nombre d'indications proposables, mais sur l'idée générale, on sera assez conforme à ce qu'on avait en phyto. Quelques bourrons particuliers caractérisés par une identité, parce que fortement associés à un type de personne, notamment le chêne, ce sera assez facilement l'homme, les problèmes masculins, le framboisier plutôt les problèmes féminins. Chez la personne âgée, on aura tendance à privilégier les rêles chez la femme, le séquoia chez l'homme. Et on aura aussi des bourgeons assez facilement associés aux problèmes de l'enfant et de la croissance en général. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec le bouleau. On va retrouver un peu plus spécifiquement le bouleau verruqueux et également le sapin pectiné, par exemple, pour des thoriciniques. Alors justement, pourquoi tous ces choix et pourquoi toutes ces assimilations particulières? Parfois, sans doute, assez évidemment, pour des raisons de symboles particuliers, on va retrouver des notions qui vont parfois se recroiser, d'ailleurs, avec celles des fleurs de Bac. Hein. Le chêne, c'est un peu la force, c'est un peu la virilité, c'est une image qu'on retrouvera dans les fleurs de Bac, où on aura à peu près le même genre de comparaison, où les personnalités de type Oak, chêne, sont vraiment les personnalités solides, fortes, viril entre guillemets. Je me suis permis une petite réflexion humoristique sur le séquoia, qui là aussi est assez facilement associé à la force maintenue chez le sujet masculin âgé, où on a quand même cette notion un petit peu d'érection bien maintenue dans l'imaginaire véhiculé. Le ginkgo, on n'en a pas parlé, ce n'est pas un bourgeon très classique, mais on va le retrouver justement chez des auteurs comme Ledoux, et où on va lui prêter des propriétés protectrices sur l'ensemble du corps qui sont extrapolées, des capacités de résistance de cet arbre effectivement en milieu naturel. Vous vous rappelez peut-être, vous savez peut-être, hein, le ginkgo, c'est un des arbres qui a le mieux résisté catastrophe nucléaire de Hiroshima et Nagasaki, et du coup ça lui prête un petit peu cette aura particulière de bénéfices santé. Et puis on n'hésitera pas chez certains auteurs, par exemple justement chez Ledoux, à aller flirter avec les références culturelles, notamment ici cette illustration, elle nous parle du roi des aulnes. L'aulne glutineuse serait effectivement un bourgeon de gémothérapie. Et Ledoux ne se prive pas de faire des références comme ça culturelles pour la notion, par exemple, que l'aulne serait un facilitateur du passage de la vie à la mort, hein, parce que le roi des aulnes, c'est un peu une référence culturelle morbide de mort des voyageurs isolés, etc. Et il y a la notion de mort et éventuellement la notion de transition en général dans la vie. Pour terminer, simplement une petite référence. Alors je pense être en retard et du coup je commence à m'inquiéter de l'arrivée de mes collègues. Je n'ai pas vu ou alors ça ne s'est pas affiché correctement.
On a tous les deux.
Ils sont là ?
Oui, tous les deux.
Ah ok, ben désolé les gars, je termine, c'est ma dernière diapo. Il ne fallait pas hésiter à me couper. Hein.
Pas de souci, on a appris plein de choses sur le séquoia. Donc...
Ok, et oui, ben, pardon. Hein. Et du coup, ben, pour terminer, justement, une dernière mise en garde qui vous explique que je sois un petit peu prudent. Donc, encore une fois, faites ce que vous voulez et faites aussi confiance à votre expérience, c'est surtout elle qui vous guidera, mais voyez quand même que, y compris, encore une fois, pour des médecins pratiquant la discipline, on peut parfois arriver sur des justifications un petit peu surprenantes. Ici, j'ai vraiment pris la phrase textuellement présente dans le livre pour l'explication de l'intérêt du bourgeon de poirier, de même que le poirier intrinsèque portant lui la propriété de fabriquer des poires, Certains patients portent en eux la propriété de fabriquer du cancer et cet arbre, par analogie, leur en apportera un soulagement. Vous pourriez mettre n'importe quoi à la place de Poirier. Hein. Tous les arbres sont capables de fabriquer quelque chose et du coup, ils pourraient éventuellement être utiles dans le cancer. Ça nous amène quand même à beaucoup de possibilités, donc grande prudence et surtout, basez-vous d'abord sur une éventuelle satisfaction plutôt que sur des raisonnements qui, a priori, seront toujours un petit peu biaisés sur ce type de discipline pour savoir s'il est utile d'avoir recours à ce type de produit.